Léa Dunant-Châtelet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gérante chez Sycomore Asset Management. On va parler avec vous de l'ISR et de l'investissement donc, dans ce secteur-là, comment on peut effectivement en profiter d'une certaine manière et faire les bons choix. Il n'y a pas longtemps, on a parlé d'ISR sur la web TV, labourseetlavie.com, et on s'apercevait que finalement les particuliers étaient peu au fait de cet ISR. Visiblement, leurs intermédiaires leur en ont pas trop parlé. Donc il y a encore un déficit d'image de cet ISR?
Tout à fait, il y a un déficit d'image, c'est la première chose. Il y a également un déficit de compréhension, de pédagogie. Aujourd'hui, l'ISR, c'est une niche dans la gestion d'actifs qui est née il y a une quinzaine d'années, donc c'est très récent, et qui est différente chez tous les acteurs, en fin de compte. Et donc aujourd'hui, on a besoin d'expliquer en quoi ça consiste de plus en plus pour que l'investisseur final comprenne la logique de ce type de fonds.
Alors, on pouvait dire peut-être investissement socialement responsable, selon les terminologies, que pour beaucoup, ça c'était une opération un petit peu marketing, c'est-à-dire on allait mettre en avant ces fonds-là sans forcément aller voir de près ce qu'il y avait dedans.
Alors, c'est un sujet, clairement. Là, après, il s'agit de regarder société par société, comment chaque entreprise intègre ces sujets, et puis d'avoir un processus d'investissement qui permet de sélectionner des valeurs pour les vraies raisons du développement durable. C'est notre cas chez Sycomore. On a un process interne qui nous permet d'avoir d'abord une flexibilité aujourd'hui, de pouvoir entrer, mais également sortir des valeurs qui auraient des sujets ou des controverses de développement durable, et d'avoir cette flexibilité en permanence.
Justement, du côté des entreprises, alors au début, on a l'impression qu'elles faisaient un petit peu par obligation, elles faisaient des grands pavés sur ce sujet-là, mais que c'était un petit peu, je me débarrasse de ça, je le fais. Est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez qu'elles ont fait des efforts justement dans ce domaine?
Vous avez raison. Alors, dans un premier temps, il y avait une logique de communication et moins finalement d'opérationnel. C'est de moins en moins le cas pour plusieurs raisons. Il y a la régulation d'abord, hein, qui impose aujourd'hui que les sociétés en parlent et communiquent également, fassent des reporting sur ces sujets de développement durable, mais il y a aussi une prise de conscience dans les entreprises de l'intérêt du développement durable comme un vecteur de croissance, comme un vecteur de réussite.
Alors, il y a un sujet sans doute qui est compliqué pour l'investisseur particulier ou autre d'ailleurs, c'est vous savez, quand on voit effectivement en bourse, on entend parler de licenciement par exemple, et on pourrait dire tiens, c'est dans une entreprise qui est plutôt bien vue du point de vue investissement durable. Comment on arrive à mettre tous ces critères justement?
Alors justement, c'est un sujet clé en plus aujourd'hui, les restructurations, le climat social d'une manière générale en Europe, on ne peut pas contourner ce sujet-là quand on est gérant sur la zone euro ou Europe aujourd'hui. De notre point de vue, une société qui n'est pas en croissance du point de vue de ses effectifs, c'est une société qui fait face à des problèmes dans le temps, de pérennité, et ce sont de notre point de vue des problèmes de développement durable. Le développement durable, c'est aussi le développement durable économique. Donc effectivement, les sociétés qui sont en restructuration ne font pas partie de celles qui nous intéressent pour ce type de fonds.
Voilà, le côté licenciement boursier, entre guillemets, on sait très bien que c'est un concept qui n'est pas forcément valable, mais ce n'est pas forcément une bonne chose, même si, on va dire au jour le jour, la bourse peut très bien réagir. Si
Tout
on
à
va
fait.
dire, on voit des plus 4% quand il y a des fois des annonces de ce type-là.
Tout à fait, mais notre vision est à long terme. Alors effectivement, si dans l'immédiat, la réaction est peut-être positive sur les marchés, de notre point de vue, ce n'est pas forcément le cas.
Quels sont les critères justement que vous allez mettre de plus en plus en avant ou que vous allez regarder de près vis-à-vis de ces entreprises? Ça sera forcément des grandes entreprises?
Alors, pour les critères, on en a 79 en tout. On les regarde tous, évidemment. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des sujets un peu plus clés que d'autres. On a parlé du climat social, mais on pourrait aussi évoquer des éléments comme les positionnements environnementaux qui peuvent être des vecteurs de croissance. Je pense par exemple à des sujets comme le recyclage ou encore la régulation qui a un poids très très fort aujourd'hui dans beaucoup de secteurs. Et ça nous permet de regarder tout type d'entreprise, y compris les toutes petites, pour répondre à votre deuxième question. Et ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, le développement durable, ce n'est pas que les grandes entreprises du CAC 40, c'est toutes les sociétés.
On a vu aussi beaucoup de débats, alors ça c'est lors des assemblées, notamment Assemblée générale, sur les questions de rémunération, de gouvernance, ce sont des points clés aussi.
Oui, tout à fait. Alors la rémunération et la gouvernance au sens large a émergé vraiment dès 2009 avec la première partie de la crise, si je puis dire. Et là, il y a eu une prise de conscience très importante sur tous les marchés. Le marché anglo-saxon était précurseur, mais aujourd'hui toute l'Europe s'en préoccupe. Et un gérant qui ne regarde pas la qualité qualité du management, la manière dont les dirigeants sont rémunérés par rapport à la performance de l'entreprise, c'est une erreur. Et nous l'intégrons dans l'ensemble de nos analyses.
Du côté justement donc des entreprises, il y a aussi pour l'investisseur cette idée peut-être que c'est pas parce que elle fait bien dans ce domaine de l'investissement socialement responsable que on va y gagner en bourse dans son portefeuille. Alors vous dites qu'il y a justement en sélectionnant un certain nombre de valeurs, il y a des opportunités donc. En respectant ces critères ?
Tout à fait, et pour une raison très simple, en fait, les critères extra-financiers ont un pendant économique et financier. Je vais vous prendre un exemple un peu ludique. Un accident du travail aujourd'hui, ça a un coût au niveau d'une entreprise. C'est entre 15 000 et 60 000 euros en coûts directs et indirects. Donc, si vous avez une entreprise qui ne sait pas gérer les accidents du travail, qui ne sait pas appréhender cette problématique, dans la structure de son usine de production, pour prendre un exemple de ce type, eh bien, ça va peser sur la structure de coûts. Donc il faut vraiment voir ça comme une manière d'appréhender des sujets qui ne sont pas forcément lisibles dans les comptes financiers, mais qui ont une véritable matérialité financière.
Est-ce que justement dans les entreprises que vous avez suivies, vous en avez vu certaines qui étaient bien parties, entre guillemets, sur cet investissement socialement responsable, sur la manière de le mettre en place dans l'entreprise et qui se seraient arrêtées en chemin ou qui auraient peut-être été moins fortes, je dirais, sur ce plan-là quelques mois après, quelques années après?
Alors oui, effectivement, il y a eu quelques bons élèves il y a une dizaine, une quinzaine d'années. Parfois la crise leur a fait mettre dans un deuxième temps cette priorité du développement durable et ça a souvent conduit à de vraies remises en question des business models de ces sociétés. Et ces sociétés-là aujourd'hui n'ont pas été de très belles réussites à la fois économiques et en bourse.
Et à l'inverse, il y a des entreprises qui, malgré la crise, parce qu'on rappelle que c'est quand même une crise exceptionnelle, ont pu maintenir, je dirais, prévoir justement un certain nombre d'éléments pour rester dans ces critères.
Absolument, et qui plus est, en bénéficier. Je vais prendre l'exemple d'Eurotunnel, qui est une société qui était complètement en reconstruction, hein, qui a eu un passé un peu compliqué et qui s'est positionné sur le développement durable, sur le thème du transport durable et qui aujourd'hui bénéficie complètement de cette logique et qui intègre ces sujets dans ses communications, dans sa stratégie. Et c'est une véritable recovery, comme on dit dans le monde de la finance.
Alors, en conclusion, je voyais aussi que vous citiez BMW. Alors là, quand on pense secteur automobile, c'est vrai que ce n'est pas le premier secteur auquel on va penser sur le développement durable, quand on a eu des sujets sur le CO2 notamment, même si les groupes font des efforts. BMW, il y avait des éléments particuliers ?
Absolument. Alors BMW, c'est un très bon exemple et le secteur est également un très bon exemple. On n'a pas forcément tendance à penser au développement durable quand on parle des constructeurs automobiles. Pourtant, il y a des vrais enjeux. Et ce secteur-là a été d'abord particulièrement sinistré en 2009-2010. BMW a su rendre ses usines très efficaces d'un point de vue consommation d'énergie, par exemple. Elle produit avec des coûts qui sont parfois inférieurs à deux fois ceux d'autres constructeurs. Elle a su également avoir un climat social positif. 80% de la production de BMW aujourd'hui, c'est encore en Allemagne. Et puis, surtout présenter une ligne de produits conforme à la régulation européenne. Ils ont eu de ce point de vue-là une capacité d'innovation très très importante.
Voilà, donc il y a matière à investir dans ce domaine-là. Merci Léa Dunant-Châtelet d'avoir été avec nous. Rappelez, vous êtes donc gérante chez Sycomore Asset Management et donc spécialiste de cet investissement socialement responsable dans votre fonds.
Merci.